Merci, mais dis donc, je vais venir plus souvent, hein? On s'est fait booster, c'est bon. On va prier avant de commencer, que le Seigneur vraiment prépare nos cœurs pour recevoir sa parole. Seigneur, on te loue, on te bénit pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, nous croyons que quand tu es là, il se passe toujours quelque chose, Seigneur. Et on ne veut pas être là comme des gens passifs qui sont là par hasard, Seigneur, mais nous sommes là déterminés à entendre ta voix, à entendre parler de toi, à entendre ce que tu veux placer, déposer dans nos cœurs, Seigneur. Tu dis que tu nous appelles à marcher de progrès en progrès. Et c'est ton enseignement, Seigneur, c'est même pas pour nous, c'est pour toi. Parce qu'au travers de ce qu'on va comprendre ce matin, bien qu'on puisse toujours plus rayonner ta gloire, qu'on puisse être des vases qui te fassent toujours plus honneur, Seigneur. Vraiment que tu prépares nos cœurs. Tu dis que nos cœurs sont semblables à ce lopin de terre qui peut recevoir de différentes manières. Seigneur, nous proclamons maintenant dans le nom de Jésus une terre fertile, Seigneur, pour recevoir ta semence de vie. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons repartir d'ici différents, en étant changés, transformés avec quelque chose de plus. Mais vraiment, Seigneur, nous sommes dans l'expectative. On ne veut pas être là vraiment passif, mais nous sommes prêts à entendre ta voix. À chaque fois que nous ouvrons ta parole, c'est ta bouche qui s'ouvre pour nous parler, Seigneur. Et nous proclamons que nous avons des oreilles ouvertes, des cœurs ouverts pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Alors merci pour ce que tu vas faire. On te loue, on te bénit parce que ton esprit est là au milieu de nous et qu'il va se passer quelque chose ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, c'est d'accord, dites Amen. Amen, amen. Ok. Bon, alors ce matin, j'avais à cœur de vous parler sur une thématique qui m'est chère en ce moment, qui est l'espérance de notre identité en Christ. C'est un vaste sujet et la notion d'espérance, elle prend place toujours dans des situations qui sont difficiles, des situations de souffrance, des situations d'incompréhension, sinon on n'a pas besoin d'espérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on soupire après quelque chose de différent, c'est que là où nous nous trouvons maintenant, ça ne va pas. Sinon, on ne soupirait pas pour quelque chose de plus. Et on va voir ce matin que dans notre identité en Christ, moi j'aime bien imaginer cela, mais c'est comme, vous imaginez, un diamant avec des milliers de facettes. Et dans ces milliers de facettes, on trouve une en particulier que je crois qui est une clé dans les temps que nous vivons actuellement et qu'on va développer ensemble, qui est cette notion d'espérance et qui est surtout cette notion qu'on n'est pas simplement citoyen de la terre, mais on est également citoyen du ciel. Et on va parler de ça ce matin. Mais pour revenir à cette espérance, je ne sais pas pour vous, mais ce qui se passe aujourd'hui m'amène à espérer dans quelque chose de plus. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois ce qui se passe dans ma propre vie, quand je vois ce qui se passe dans la vie de mes frères et sœurs, moi j'espère quelque chose de plus. J'ai envie de quelque chose de plus. Je veux vivre quelque chose de différent. Et quand on regarde un petit peu à ce qui se passe ailleurs dans le monde, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus à espérer que nous. Vous savez, je me dis, on est béni, on est vraiment béni d'habiter dans ce pays, dans cette nation. Regardez, contemplez dans votre vie comment les sujets de joie, ils sont nombreux. Et regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs. Quand on pense à ce peuple ukrainien, c'était des gens comme vous et moi, et en un instant, ces gens, ils ont tout perdu. Et ça nous rappelle la grâce que nous avons pour nous rassembler ce matin, de ne pas être dans la crainte de se prendre une bombe dans la tête. Mais vraiment, on est vraiment béni. Et qu'on sache aussi reconnaître cela. Mais malgré ces sujets de joie, on voit que chaque jour, et particulièrement en ce moment, on voit la télé, on voit dans les journaux, on voit toutes sortes de nouvelles terrifiantes, de la violence, de l'injustice, des conflits qui éclatent à travers le monde, et souvent pour les mêmes choses, pour plus de richesses, plus de territoires, plus de pouvoir. Et même si la guerre n'est pas encore dans notre pays, l'inquiétude, le stress se fait ressentir. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans les discussions que vous avez pu avoir peut-être cette semaine avec des gens de votre travail ou dans votre propre famille ou même vous-même, mais disons que les sujets du moment font naître des peurs et des craintes. Et on se demande parfois, mais combien de temps ça va durer tout ça? Pendant combien de temps on va vivre des temps comme cela où on envoie nos enfants à l'école, on est dans la crainte de ce qu'ils vont entendre, on voit l'immoralité de ce monde, on voit la violence, on voit les conflits, on voit tout ça, on voit ces guerres, ces bruits de guerre, on se dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et alors que je préparais ce temps pour ce matin, je me suis souvenu d'un homme, qui s'appelle Jean de Blocq. Et cet homme, il était vivant il y a 100, 150 ans en arrière. Et cet homme a réalisé une analyse de l'histoire mondiale qui révélait, écoutez bien, qu'entre l'année 1496 avant Jésus-Christ et l'année 1861 de notre ère, c'est-à-dire sur une période de 3357 ans, il y a eu 227 années de paix pour 3130 années de guerre. Je ne sais pas si on réalise le ratio, toutes ces années de guerre comparées à ce peu d'années de paix. Et si on ajoute à cela tout ce qui s'est passé depuis, savoir Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et tous les conflits qu'il y a eu, eh bien on se rend compte d'une chose, c'est que la paix est une chose qui est précieuse. Les années de paix sont une chose qui est précieuse. Et de ce fait, face au monde, face à la violence, face à la guerre, face à tout ce qui se passe, on pourrait se demander, mais comment le Seigneur nous appelle-t-il à vivre? Et c'est vraiment de ça que je veux qu'on parle ce matin. Ce n'est pas tant tout ce qui se passe, mais c'est comment Dieu nous appelle à répondre face à cela, comment Dieu nous appelle à vivre. Et pour répondre à cette question, eh bien, on doit réaliser une chose importante, qui est cette facette dont je vous ai parlé, de notre identité en Christ, c'est que nous sommes porteurs, chacun d'entre nous, d'une double citoyenneté. On a tous une double citoyenneté. Peut-être certains d'entre vous, en plus, ont déjà une double citoyenneté naturelle, donc peut-être ça fera une triple ou une quadruple, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tous une double citoyenneté. La première, c'est notre citoyenneté terrestre. On est né dans un pays, avec un gouvernement, avec des lois, avec une culture, avec un langage, avec tout ça. Et c'est une chose vraiment merveilleuse qu'on ne doit pas mépriser, peu importe l'endroit où nous sommes nés, parce que le Seigneur nous a choisis pour naître dans ce pays, dans cette génération, ce n'est pas pour rien. C'est dit dans Éphésiens 2:10 qu'avant la fondation du monde, il avait préparé des bonnes œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Donc on a tous des choses à vivre dans cette génération, dans ce pays, dans les temps que nous vivons. Ça, c'est une première chose. Et on voit que Paul, à plusieurs reprises, a parlé de sa citoyenneté. Il en a parlé pour faire avancer l'évangile, mais aussi pour se sortir parfois de certains trépas. Rappelez-vous, il faisait valoir sa citoyenneté romaine quand il en avait besoin. Et hop, il changeait de casquette, il prenait la citoyenneté juive quand il en avait besoin. Mais on voit que c'était quelque chose qui était important et qu'il n'a jamais caché. Mais au-delà d'une citoyenneté d'un pays terrestre, eh bien, nous sommes également citoyens du ciel. Il nous est dit dans Philippiens 3:20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Paul, dans ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Il est en phase 2. Comment on appelle les gens qui habitent à Montélimar? Les Montiliens. Bon, imaginez que Paul est devant vous et il est à Montélimar. Et il dit aux Montiliens, vous êtes à Montélimar, vous habitez à Montélimar, mais la vérité, c'est que vous devez vous comporter comme étant des citoyens du ciel. Certes, vous habitez ici, vous êtes des Montiliens, vous avez vos vies, vous avez tout ça, mais vous êtes appelés à vivre cette nationalité qui est céleste et non terrestre. Et j'aimerais vous dire ce matin que si vous êtes né de nouveau, que vous avez fait de Jésus votre sauveur, le Seigneur de votre vie, alors vous êtes citoyen céleste. Pourtant, on a du mal à le réaliser, pourtant on a du mal à y penser dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que physiquement, on est là, on est sur la terre, mais on est spirituellement dans le ciel, car comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire qu'on est là sur la terre, mais en même temps, on est dans le ciel avec Jésus-Christ. On est dans cette dualité de citoyenneté, et sur la terre, et dans le ciel. Et cette révélation est vraiment sans limite, parce que si Dieu n'avait pas révélé ça, les choses seraient bien différentes dans le monde dans lequel nous vivons. Mais cette révélation, elle nous rappelle qu'un citoyen du ciel, il doit se comporter ici-bas comme quelqu'un qui est de passage. On est là pour un temps, on n'est pas là pour toujours. Et cette notion, elle est souvent vraiment difficile à assimiler parce que tous les jours, dès qu'on se lève, on s'occupe des choses de la terre. On a nos familles, on a notre travail, on a nos soucis, on a notre crédit à la banque, on a notre voiture qui tombe en panne, on a peut-être certains sont malades, on doit prendre nos médicaments, on a tout un tas de choses, on a nos agendas qui sont surchargés et ça vient nous absorber. Ça vient prendre notre attention qui fait que des fois, on se lève le matin, mais on en oublie même cette vérité qu'on est citoyen du ciel. Oui, on est sur la terre, mais en même temps, on est citoyen du ciel. Et notre destination finale, c'est le ciel, c'est pas cette terre. Et parce que cette destination finale, c'est le ciel, eh bien nos pensées, nos objectifs pour l'intérêt du royaume de Dieu, ils doivent être présents dans nos cœurs, dans nos pensées, jour après jour. Et tellement souvent, eh bien on vit comme si on avait atteint notre destination finale. Mais la vérité, c'est que nous sommes ici-bas en transit. On est là pour un temps donné. Et j'aime beaucoup cette notion de transit. Il y a un mois de ça, je suis parti aux États-Unis et j'ai un avion qui a été annulé à l'aller, un avion qui a été annulé au retour. Et je me suis payé une période de transit de 15 heures. Et je vous dis, si vous voulez prendre conscience de ce qu'est le transit, il n'y a rien de mieux que ça. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, et surtout au retour, j'étais coincé à Francfort pendant 15 heures. Je n'avais pas vu ma femme et mon fils depuis 10 jours. J'avais qu'une pensée, ma destination finale. J'avais qu'une pensée, c'était de rejoindre ma famille et de rejoindre le lieu où j'habite, le lieu où je suis résident. Et ça, c'est vraiment une bonne image de ce qu'on est sur cette terre. On est en transit. On est là pour un moment. On est là pour un instant. Et vous savez, si certains d'entre vous ont déjà pris, ont déjà fait des longs voyages sans trop de budget, quand vous êtes un peu en galère, souvent vous pouvez faire une escale, si vous êtes vraiment en galère, deux escales, parfois trois escales, quand on va très très loin. Et il m'est arrivé une fois de faire une escale pendant toute une nuit à Dubaï. Et une chose intéressante, c'est que même vous pouvez avoir une nuit à l'hôtel, mais votre bagage, votre valise, elle reste dans l'avion. Et si jamais elle n'est pas dans l'avion, bah, pour ceux qui ne sont pas organisés comme moi, bah, vous ouvrez votre valise, vous essayez de prendre votre dentifrice, votre brosse à dents et vous refermez parce que vous savez que vous allez repartir. Mais sinon, on a nos petits bagages à main qui permettent eh bien, d'être là que pour un instant et savoir avoir le nécessaire. Quoi. Bien, ici-bas, c'est la même chose. Nos valises, elles ne sont pas appelées à être déballées ici-bas. Notre destination finale, c'est le ciel. On est en transit, on est là pour un instant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment assimiler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on n'est là que pour un instant, que pour un moment. Et j'avais lu il y a quelque temps cette citation d'un homme qui disait « On passe souvent plus de temps à préparer nos vacances d'été que préparer notre éternité. » Et je trouve qu'il y a tellement de vrai. Parce que le monde nous absorbe, on est là et on prépare. Et on se dit « Ah chérie, je pense qu'on va aller à Palavas cette année, puis on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. » Est-ce qu'on passe ce même temps à dire « Mais Seigneur, c'est vrai, un jour je serai avec toi et je vais me préparer ici-bas. » Parce que la vérité, c'est qu'on peut se retrouver dans cette éternité du jour au lendemain. Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus proche de cette échéance qui vient. Mais est-ce qu'on a cette pensée de l'éternité? Cette pensée que, oui, il y a une destination finale qui nous attend. Tout ce que nous voyons autour de nous, cette table, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, peu importe, tout est temporaire, tout est souillé, tout est soumis aux lois de ce monde. Tout. Et les lois de ce monde, elles sont vraiment différentes de celle du royaume des cieux, de ce royaume qui nous attend. Jésus a révélé une chose extraordinaire. Il a dit un jour, mon royaume n'est pas de ce monde. On connaît ce passage. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et alors que je préparais, j'ai lu la suite, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai jamais réalisé ça? Il continue en disant, mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Vous savez ce que Jésus est en train de dire ici? Il dit que parce qu'il est venu sur la terre en tant que serviteur, parce qu'il est venu en étant soumis et limité à des lois terrestres, eh bien, il a accepté de subir la souffrance de la croix. Parce que comme il dira à Pierre, rappelez-vous, quand ils sont venus chercher, il a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si je veux, je ne peux pas demander à mon père et que mon père, il m'enverrait dans la seconde 100 000 anges pour venir à mon secours? Sous-entendu, c'est que si ça s'était passé dans le royaume des cieux, eh bien en fait, ce ne serait jamais arrivé. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que bien des choses arrivent ici-bas, dont celles que nous voyons actuellement en Ukraine et en Russie, et bien des choses arrivent dans notre vie pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas encore dans le royaume qui nous attend, mais on est dans un royaume qui est en transit. Un jour, on sera avec Dieu et les choses seront totalement différentes. Mais parce qu'on est sur un royaume qui est terrestre, eh bien, les choses sont ainsi. Bien des choses qui arrivent actuellement sont la raison de... parce qu'on est là sur un royaume qui est terrestre. Et un jour, on sera dans le royaume de Dieu. Et les choses seront différentes. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Et j'aimerais nous rappeler une notion qui n'est pas toujours facile à réaliser, qui est parfois choquante. Mais celui qui règne sur cette terre aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. C'est le diable. Et il s'est acquis ce droit dans le jardin d'Éden lorsqu'il a fait chuter l'homme. Et il s'est acquis ce droit également lorsque les Juifs et les nations tout entières ont rejeté Jésus et ont refusé son règne. Souvenez quand Jésus est arrivé, ils ont dit « Mais Hosanna au fils de David, au Dieu très haut ». C'est ces mêmes gens qui l'ont crucifié quelques jours après. Ils ont refusé le règne de Jésus. Et parce que dans le jardin d'Éden, Satan a acquis ce droit sur la terre, eh bien, Jésus ne règne pas aujourd'hui. Un jour, il règnera. Mais aujourd'hui, celui qui règne, c'est Satan, c'est le prince de ce monde. C'est le nom qu'il a, le prince de ce monde, c'est pas Christ. Et c'est pour cela que notre monde, il est toujours plus touché par la maladie, par l'injustice, par la violence, par les guerres et par tout ce que vous pouvez mettre derrière cela. Tout ce que nous voyons se passer trouve sa source dans le fait que le prince de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. C'est pas Jésus. Mais, on va revenir à ce qui est important, toute la corruption de ce monde n'enlève rien à notre condition d'enfant de Dieu. Toute la corruption de ce monde n'enlève rien au fait qu'on est citoyen du ciel. Et j'aimerais amener une troisième notion, c'est que nous sommes ambassadeurs de Christ. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous ou au travers de nous. Et en tant qu'ambassadeurs de Christ, eh bien, nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu. À chaque fois qu'on se rassemble comme ce matin, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on loue le Seigneur, à chaque fois qu'on prie pour les malades, qu'on prie pour les captifs et qu'ils sont délivrés, eh bien c'est le royaume de Dieu qui vient et qui envahit. Qui envahit le malade, qui envahit le lieu où on se trouve. Et lorsque Jésus reviendra pour régner sur cette terre, qu'est-ce que j'aime ce verset ? Il nous a dit qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies. C'est pour ça que lorsque le royaume de Dieu vient, ces choses-là se manifestent. Quand les malades sont guéris, c'est parce que le royaume de Dieu vient et touche la personne. Et tout ce qui est inhérent, tout ce qui est attaché à ce royaume, eh bien, se manifeste. La joie, la guérison, la délivrance, la paix, l'amour, la sécurité, toutes ces choses-là, elles sont dans le royaume de Dieu. Et lorsque le royaume de Dieu vient, eh bien, ces choses-là se manifestent et viennent transcender, viennent écraser les lois de ce monde. Rappelez-vous de ça, on vit dans un royaume où ce n'est pas Jésus qui règne. Par contre, lorsque nous allons dans le nom de Jésus, lorsque nous prions dans le nom de Jésus, lorsque nous nous rassemblons, eh bien c'est les lois du royaume de Dieu qui viennent et qui viennent supplanter, écraser, effacer tout ce que vous voulez, dissoudre les lois de ce royaume terrestre. C'est pour ça qu'on est des ambassadeurs de Christ et c'est pour ça que c'est une mission importante, parce que nous sommes des porteurs du royaume. Nous sommes des porteurs de la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, eh bien il se passe tout un tas de choses. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on est là, et qu'on prie, et qu'on loue, et qu'on est là en ce moment, on n'a pas des pensées de péché? Vous n'avez pas envie de pécher là? Vous n'avez pas de problème avec des addictions? Toutes ces choses-là ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le royaume de Dieu qui est là. Par contre, le défi, ça va être demain matin, ça va être ce soir quand vous rentrez. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut se rappeler ce qu'on a entendu. Mais pourquoi ça se passe? Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle vient avec ses lois, elle vient avec le règne de Christ. C'est pour ça qu'on est bien, on est dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que lorsque Jésus, rappelez-vous, a prié pour cet aveugle qui était muet, il a dit aux pharisiens qui étaient là, il a dit « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Mon royaume est venu transcender celui dans lequel vous vivez actuellement. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on prie, lorsqu'on agit, lorsqu'on vit en tant qu'enfant de Dieu dans le nom de Jésus, lorsqu'on vit cet appel d'ambassadeur de Christ. Et j'aimerais donner juste un petit exemple pour qu'on réalise bien jusqu'où ça va, cette notion d'ambassadeur. Imaginez un seul instant l'ambassadeur des États-Unis en France, par exemple. Il est là, il est dans un bâtiment qui fait que quand vous rentrez dedans, vous êtes aux États-Unis, il ne dépend pas des lois, des règles, comme un citoyen français. Et lorsqu'il va, par exemple, se passer quelque chose de dramatique aux États-Unis, les journalistes, ils vont venir à l'ambassade et ils vont interviewer l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répondre aux journalistes, aux questions des journalistes, non pas selon ses convictions, non pas selon ce qu'il pense, non pas selon ce que monsieur a comme avis sur l'actualité du moment, mais il va se baser sur une seule chose, l'avis du président des États-Unis d'Amérique. Et le président va lui donner tous les tenants et les aboutissants pour qu'il puisse répondre convenablement. Et bien, spirituellement parlant, c'est exactement la même chose pour nous, qui représentant le royaume de Dieu sur la terre. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, doit être puisé dans la personne de Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. On est ambassadeur de Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique ? Parce que amenons de la pratique dans cet exemple que je viens de vous donner. Quand on voit les informations, quand on voit les drames, quand on voit l'immoralité, quand on voit la guerre en Ukraine, la violence qui frappe l'Ukraine, comment est-ce que nous réagissons ? Qu'est-ce qui se passe dans notre démarche intérieure? Quelle est notre réponse face aux questions que les circonstances présentes nous posent? les circonstances présentes autour de nous, mais les circonstances présentes dans votre vie, quand on passe par des temps difficiles, quelle réponse avons-nous à donner à cela ? Parce que la vérité, mes amis, c'est que ni moi, ni vous n'avons la correcte réponse. Le seul qui a la véritable réponse, et je vais utiliser ce mot pour reprendre mon exemple, c'est notre président, c'est notre roi des rois, c'est notre seigneur des seigneurs, c'est celui qui nous a envoyés. Et dépendre de notre roi et répondre avec nos émotions, nos paroles, nos actions, eh bien, devrait d'abord trouver sa source dans le fait que c'est notre roi qui nous a envoyés. Tellement souvent, on est là et on a nos avis. Eh mais moi, je pense ci, et moi, je pense ça. Et je pense que j'ai telle épreuve dans ma vie parce que Dieu, il veut me punir. Oh Dieu, il veut m'apprendre quelque chose. Est-ce qu'on est allé consulter le Seigneur pour savoir vraiment de quoi il retourne ? Parce que l'avis de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, on s'en fout. On est des représentants du royaume de Dieu. On est des ambassadeurs. C'est lui qui nous envoie. C'est lui notre président. Pour mon analogie, ok ? C'est lui notre roi des rois. Et être le reflet de qui il est nécessite dans un premier temps d'aller le consulter lui pour savoir ce que lui pense de tout ça. Comment est-ce que tu veux que j'agisse ? Comment est-ce que tu veux que je prie ? Comment est-ce qu'il faut que je pense ? Comment il faut que je puisse rassurer ceux qui sont autour de moi ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Toutes nos pensées, toutes nos décisions sur terre doivent se conformer aux pensées et aux décisions de notre Père qui est dans le ciel. Et en tant que citoyen du ciel, membre d'une citoyenneté terrestre qui est provisoire, eh bien, nous devons réaliser que nous sommes porteurs d'un message qui vient de notre véritable origine. Et notre véritable origine, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés, c'est Dieu qui nous a désirés. Ça, c'est notre véritable identité. Et cette vérité, elle doit impacter et influencer chaque sphère de notre vie. Comment me comporter ? Quelle éthique avoir au travail ? Comment gérer mes finances ? Comment gérer ma famille ? Comment éduquer mes enfants ? Comment faire face quand je ne comprends pas toujours ma femme ou mon mari ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Donne-moi les outils, donne-moi les clés. Et c'est ça être ambassadeur, c'est aller voir notre maître pour savoir comment répondre face aux questions que le monde nous pose et que les circonstances présentes nous posent. Et mes amis, les circonstances présentes, c'est également celles qui touchent nos vies personnelles. Comment est-ce que nous réagissons ? Et c'est pour cela que Jésus nous a exhortés à prier ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Quand nous présentons nos requêtes dans la prière, on doit toujours se rappeler que nous sommes des citoyens du ciel et que par conséquent, nous devons nous conformer à ce qui se passe déjà au ciel. C'est ce qui compte. Et ce n'est pas seulement l'assurance de la foi, mais c'est surtout l'assurance basée sur la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jean, dans 1 Jean chapitre 5, a dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Vous trouvez pas ça formidable ? Moi, je trouve ça formidable. Ça veut dire que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu et qu'on prie que cette volonté prenne forme, prenne vie, eh bien, ça se passe. C'est la promesse que Dieu nous fait ici. Et ça, c'est possible que lorsque nous comprenons que nous sommes des citoyens du ciel. Un citoyen du ciel cherche toujours à marcher selon le plan céleste en acceptant parfois de perdre aussi nos propres intérêts. Parce que nos intérêts ne coïncident pas toujours avec les intérêts de Dieu. Et avant de demander quoi que ce soit dans la prière ou d'agir face aux circonstances environnantes, eh bien, on devrait poser juste des simples questions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dans cette situation ? Quelle est l'opinion céleste concernant ce qui se passe dans ma vie ? Quelle est l'opinion céleste vis-à-vis de ces difficultés que je rencontre au travail ou dans mes finances ou peu importe ? Et ça, mes amis, c'est là tout le défi de cette dualité de citoyenneté que nous vivons. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et ne soyons pas surpris par ce qui se passe, parce qu'il ne peut pas sortir d'une même source de l'eau douce et de l'eau amère. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas dans le royaume céleste encore aujourd'hui. Et on aimerait parfois que le monde, je disais ça à une sœur il n'y a pas très longtemps, je disais, mais ce serait tellement plus simple si le monde avait les mêmes valeurs que nous. Je dis, oui, effectivement, mais la vérité, c'est que c'est pas possible. Parce que ces deux royaumes-là, ils sont diamétralement opposés. Un jour, ce sera possible. Mais en attendant, ce n'est pas possible. Et si on s'attend à cela, on va avoir que de l'amertume, que de la déception. Soyons conscients aussi qu'on est là en transit sur cette terre et que c'est différent de ce qui nous attend. Et que c'est comme ça. Mais j'aimerais terminer sur une notion importante par rapport à tout cela. Et vous allez voir que tout va prendre forme. C'est l'espérance qui s'attache en tant que fils et fille du roi des rois en tant que citoyen du ciel, en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus reviendra établir son royaume sur cette terre. On l'a chanté d'ailleurs magnifiquement, on a chanté que le règne de Dieu vienne. Vous savez, quand on fait cette prière, que ton règne vienne, c'est une prière qui n'est pas encore pleinement réalisée, qui sera pleinement réalisée un jour. Et ce règne de Jésus va venir. Il va venir établir son royaume sur cette terre. Et ensuite, on sera avec lui pour l'éternité. Et moi, je soupire après ce jour parce qu'à ce moment-là, on sera à l'unisson avec lui. Il n'y aura plus de dualité de citoyenneté. On sera à l'unisson avec notre Père. Mais ce que je voudrais vous dire par rapport à cela, c'est est-ce que nous réalisons l'éternité qui nous attend avec le Seigneur ? Que vous pensez des fois à cela ? Moi, j'y pense beaucoup. Ça fait vraiment mal à la tête quand on s'y met. Pensez à des milliards et des milliards d'années. L'éternité avec Dieu. Et la vérité, c'est que si nous sommes citoyens du ciel, c'est ce qui va se passer. Un jour, nous serons pour l'éternité avec Dieu. Mais je me disais en même temps, à la vue de cette grandeur, pourquoi est-ce que nous accordons tant d'importance aux choses de la terre ? Pourquoi est-ce que nous accordons tant d'importance aux circonstances présentes ? Alors que si on réalise la chose, on y vivra en moyenne 80 ans, 90 ans, 100 ans peut-être pour certains d'entre nous. Mais on est là, on est ça sur une éternité de milliards et de milliards et de milliards d'années. Bien souvent, le diable, il veut nous persuader que notre bonheur se trouve ici-bas, que la terre, c'est l'endroit où on est là pour s'épanouir. Mais mes amis, encore une fois, c'est vraiment un temps de transit. C'est pas notre destination finale. Et qu'on le veuille ou non, comme je disais tout à l'heure, chaque jour nous approche de ce jour où on rejoindra le Seigneur. Vous savez, il y a quelque temps, il y a une sœur d'église qui a perdu son frère. Elle me disait, mais c'est terrible. Je lui dis, mais tu sais, je comprends que ce soit terrible parce que Dieu nous a créés, nous a jamais créés pour mourir. Tu sais, le deuil est une chose si terrible, mais pourquoi ça vient vraiment meurtrir notre cœur ? Parce que Dieu ne nous avait pas créés pour mourir. On était là pour l'éternité à la base. Je dis, mais cette déchirure, elle est terrible. Et même Jésus l'a ressenti dans les évangiles. On voit qu'il a vécu toute cette douleur aussi vis-à-vis de Lazare notamment. Mais ce que je lui ai dit à cette sœur, je lui ai dit, mais tu sais, en attendant que Jésus revienne, la mort, c'est finalement notre seule porte pour rejoindre notre Seigneur, pour rejoindre notre roi des rois. Et je dis, il faut le voir aussi que c'est une espérance, parce qu'un jour, on sera avec lui. Et vous savez, des fois, quand on est bien dans notre vie, quand on n'a pas de soucis, c'est facile de ne pas désirer ce jour-là. Peut-être parmi vous, il y en a qui souffrent terriblement de maladies, qui souffrent de désespoir, qui souffrent de difficultés. Moi, j'ai un père qui a une maladie terrible à l'oreille. Il attend ce jour, mais avec impatience, le jour où il pourra rejoindre le Seigneur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, cette espérance, elle n'a pas le même degré pour chacun d'entre nous, selon ce que nous vivons. Et peut-être qu'un jour viendra où on espérera encore plus qu'aujourd'hui. Mais cette espérance, elle est tellement précieuse, mes amis, parce qu'un jour, on sait qu'on sera avec le Seigneur. Cette espérance, elle est tellement précieuse, on doit la chérir, on doit l'entretenir, parce que c'est ça qui nous permet de tenir bon. C'est ça qui nous permet de tenir bon dans la difficulté. C'est ça qui nous permet de tenir bon quand il se passe des choses autour de nous et qu'on ne comprend pas. On a besoin de cette espérance. C'est pour cela que le titre de mon message, c'est notre identité en Christ, c'est une espérance. On est citoyen du ciel. Et parce qu'on est citoyen du ciel, on a un avenir, on a une espérance qui va même au-delà de ce qui se passe sur la terre. Un jour, on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Et nous vivons aujourd'hui avec cette espérance que, eh bien, il reviendra un jour, bientôt, peut-être, je ne sais pas, mais on sait qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a dit et qu'on peut s'attendre à lui. Et toutes les souffrances, toute l'immoralité de ce monde prendra fin un jour. Et j'aimerais vous lire un dernier passage dans Ésaïe, chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Il, donc c'est-à-dire Jésus, rendra son jugement entre les nations et sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches et de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. » Mick, si tu peux afficher l'image que je t'ai donnée tout à l'heure. Ah mince. Ouais, c'est pas grave sinon. C'est pas grave. Il y a un artiste russe du nom de Yevgeny Fouletich qui a fait de ce verset une statue qui a été inaugurée le 21 mai 1960. Cette statue, elle se trouve devant le siège de l'ONU à New York. Et Je me suis souvenu de ça quand je prenais ce verset. Et on voit cet homme qui est en train de marteler son épée pour en faire une pioche. Et un jour, mes amis, ça va arriver tout ça. Ça va arriver. Et j'ai trouvé ça magnifique que c'est un Russe qui a fait ça. Mais nous avons cette assurance qu'un jour, ça va arriver parce que c'est notre espérance. Et tant que Jésus, le prince de paix, ne sera pas revenu établir son règne sur la terre, il n'y aura pas de véritable paix ici-bas, mais ce verset est pour chacun d'entre nous une véritable espérance dans laquelle nous pouvons placer notre confiance. Parce que vous savez quoi ? Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu promet, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir et ses promesses sont véritables. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il est avec nous dans les challenges que nous vivons, même vis-à-vis de cette double citoyenneté. Il va nous aider, il est là. Sa patience est là, son pardon est là, et il va nous aider à avancer dans cela. Et j'aimerais vraiment vous dire ce matin qu'on ne cède pas aux pensées de ce monde, qu'on ne cède pas aux peurs, qu'on ne cède pas aux craintes, peu importe ce qui se passe, même dans vos propres vies, mais que vraiment on regarde au Seigneur. Et j'aimerais terminer là-dessus, peut-être qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Mais je ne sais pas ce que chacun d'entre vous pouvez vivre dans vos propres vies. Mais je sais une chose, c'est que le règne de Jésus est plus grand que ce que vous pouvez vivre. Et je sais que lorsqu'on prie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel, dans un lieu où on est deux ou trois rassemblés en son nom, il se passe quelque chose. Alors si ce matin, vous avez besoin d'un toucher du règne de Jésus dans vos vies, eh bien je vous invite à vous lever. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des difficultés vis-à-vis de votre vision, de comment vous vivez votre vie. Des fois, on est tellement absorbé par cette vision terrestre qu'on en oublie cette vision du ciel. Si vous avez besoin aussi d'être renouvelé dans cela, que le Seigneur vienne ouvrir nos yeux. Vous savez, Jésus a dit, nous sommes appelés à marcher non par la vue, mais par la foi. Le monde autour de nous, il marche par la vue. Mais nous, on est appelés à marcher par la foi. La foi qui voit, c'est ce royaume céleste. Cette foi qui voit les lois de notre royaume. Les fois qui voient que le règne de Jésus vient et que quand le règne de Jésus vient, il se passe quelque chose. Si vous avez besoin d'une transformation intérieure pour vivre avec des yeux ouverts, selon le cœur de Dieu, selon ce qui se passe dans le ciel, bien je vous invite également à vous lever. Et ceux qui sont malades et qui ont besoin d'une guérison, levez-vous également et on va prier que le règne de Jésus vienne toucher nos vies. Que le règne de Jésus vienne toucher nos vies.